Bienvenue à ce podcast avec Brigitte Quérin autour de son livre La médiation, un nouveau projet de société et aussi un petit peu autour de ta vie, hein, je crois, Brigitte.
Oui, bonjour. Bonjour, Pascal.
Salut Brigitte. Donc, c'est un livre plein de sagesse qui met en lumière les éléments déclencheurs du conflit et qui donne aussi des solutions pour le désamorcer. Et je crois aussi que l'intention du livre n'est pas seulement de mieux connaître la médiation, mais surtout aussi de mieux connaître soi-même à travers la compréhension des conflits internes et externes, qui sont d'ailleurs intimement liés, comme nous allons justement le voir. Donc,
Exactement, exactement. Oui.
bienvenue à ce podcast Perspective de médiation. Nous discutons ici de la médiation, de la prévention, de la gestion des conflits, de la construction de la paix et d'autres thèmes en lien avec la médiation. Alors, bonjour, Brigitte Irène.
Bonjour,
On apprend des
merci.
choses. On apprend des choses en lisant les livres. J'ai vu que tu as un deuxième prénom, Irène.
Oui.
Est-ce que ça a une signification? C'est une tradition familiale? Chez nous, c'est toujours le parrain ou le marraine qui donne le deuxième nom. Je sais pas si...
Absolument. Non, non. Alors, d'abord, en grec, Irénée veut dire la paix. Et je
Ah,
trouvais que, ah, il fallait quand même aller le chercher, ce prénom. Et puis, donc, je l'ai réactivé quand j'ai commencé mes activités, oui, je dirais surtout à partir du Rwanda, à partir de 97, quand j'ai commencé mes activités de gestion de conflits et d'apprentissage de la médiation et mon cursus lié à la question des conflits. Donc voilà, j'ai déterré ce nom qu'effectivement, que ma grand-mère m'avait donné, elle trouvait ça très joli. Voilà.
absolument. Elle a trois raisons, c'est un beau choix.
Merci.
Alors, par rapport à toi, donc, tu es à Genève, médiatrice en Suisse et en France et à l'international.
Oui.
Tu es journaliste, enseignante et puis de nombreuses années dans l'humanitaire,
Oui.
avec les CICR, avec l'Institut pour la Multitrack Diplomacy, avec le groupe de Mediation Support des Nations Unies,
Oui.
avec le département des affaires étrangères suisse et avec
Oui.
d'autres institutions.
Oui.
Tu étais en Afrique du Sud, au nord de la Somalie, au nord du Mali, au Rwanda, et puis d'autres trucs aussi, comme tu as travaillé dans un couvent, par exemple.
Oui.
Et tu as été enlevé au Mozambique.
Exactement. Oui. Si on veut faire aussi la liste, avant que d'aborder le Mozambique, j'ai aussi été en Côte d'Ivoire avec Internews. À l'époque, c'était pour faire du media peace building, et ça, c'était intéressant aussi parce que, comme on sait, hein, suite au Rwanda, la presse joue un rôle très important pour la désescalation d'un conflit. Voilà. J'ai aussi été en Guinée-Conakry, qui a des transitions difficiles pour les partis politiques, etc. Mais comme tu dis, revenons au Mozambique et revenons sur ce 1er juin 1990. Donc, ça faisait pas très longtemps que j'étais au CICR et puis par un petit peu hasard, etc. Je suis assez vite, en 2 3 semaines, je suis devenue responsable d'un petit bureau de Quélimane parce que le monsieur précédent était parti, etc. Et puis bon, mon portugais était encore un tout petit peu chancelant. Et puis ben, on fait ce que le CICR fait toujours, des missions d'évaluation pour des populations qui sont isolées et qui sont souvent. Là, c'était la Renamo, hein. On a essayé d'atteindre des populations que le Frelimo, donc le parti gouvernemental, dont il s'occupait plus. Donc, on savait qu'il y avait un risque au départ, mais on n'a pas pensé, on était qu'un autre délégué, on n'a pas pensé que ça allait se passer comme ça. Donc, on a été attaqué par derrière. Ils nous ont sortis de la voiture, ils ont emmené l'autre monsieur dans une direction et moi dans l'autre, et ils ont brûlé la voiture. Et c'est ça qui a créé ensuite, à travers Voice of America, parce qu'il y avait de la fumée partout, et c'est ça qui a créé un peu un choc en Europe et surtout au CICR, parce qu'ils se sont dit, mince, il y avait un délégué avec moi, mais qui venait de Beira, qui était très, très professionnel et qui connaissait bien la question de l'évaluation nutritionnelle de la population. Et moi, en fait, qui étais un peu fraîchement arrivée. Voilà. Et donc, la fille enlevée, c'était effectivement assez violemment. On a eu, entre guillemets, de la chance parce que on servait quand même d'objet de négociation, hein, on va dire comme ça. Et voilà, au bout de 3 semaines, j'ai été libérée. Et puis, on va le dire un petit peu antidiplomatiquement, Voilà, les zones Renamo voulaient des médicaments et ils les ont reçus pour leur population, évidemment, qui était coupée de tout.
D'accord. Aïe, c'est mon Dieu, hein, c'est incroyable comme histoire.
Oui, c'est un peu spécial parce que c'est dans l'endroit, c'est près de Mocuba. Et actuellement, Pascal, je ne sais pas si tu sais, mais il y a énormément de problèmes au Capo Delgado, qui est un endroit où il y a justement des extrémistes islamistes. Enfin, on sait pas très bien, en tout cas, de l'État islamiste qui descendent de Tanzanie. Donc, c'est des endroits vraiment très isolés. Et comme tu sais, le Mozambique, c'est comme une espèce de banane tout en longueur, hein, qui est accolée à l'Afrique du Sud. Donc, pour aller effectivement faire du développement au nord du Mozambique, c'est compliqué. Donc, on était à peu près dans ces régions-là qui étaient un no man's land, hein. Il y avait Médecins sans frontières, mais enfin voilà. Voilà. Oui,
C'est un événement très très marquant hein, pour la vie. Et puis d'ailleurs, tu en parles, hein, tu as d'autres livres, peut-être ici à la prochaine étape. Donc, tu as Patchwork de vie qui vient d'être publié aussi, où tu parles de cet événement un peu plus en profondeur. Tu as aussi écrit Poudre d'Afrique en 2012 et en anglais The Art of Conflict or How to Stay Zen 2009. Je pense que c'est peut-être un peu un précurseur du livre qu'on discute aujourd'hui en quelque sorte.
Absolument, c'était les bases. Oui, tout à fait.
Et puis Rwanda, Part de Dieu, Part du Diable en 2002, c'était dans le
Oui,
premier.
oui. Oui, ça c'était suite donc aux 4 ans que j'ai passé au Rwanda, pas presque 4 ans. Et ça c'était vraiment après le génocide. Et là j'étais pour la Confédération. Le titre qu'on m'a donné c'était chargée d'affaires. Et comme disaient toujours les autres diplomates, parce que j'étais à la fois chargée d'affaires, chef de la coopération, chef de l'aide humanitaire, chef du consulat, parce qu'il n'y a personne qui voulait y aller. Et on a un petit peu réparé les dégâts. Qu'avaient fait quand même certains pays comme la Suisse, la France, la Belgique sur place. Et surtout, j'ai vraiment été envoyée par la Confédération dans une mission de réconciliation avec le nouveau gouvernement. Et c'est un petit peu là que ça a commencé. Comment est-ce qu'on fait pour se réconcilier? Voilà. Et ça a été aussi, donc c'est vrai que j'ai eu des affaires majeures dans ma vie entre l'enlèvement et les 4 ans de Rwanda. Je pense que j'ai été proche de la souffrance de l'humanité. Et en même temps, ça a été pour moi un très, très grand facteur d'apprentissage et de proximité avec l'âme humaine, avec ce qui nous rapproche tous, et ça a été la base aussi de ma philosophie, qui est réellement, on forme qu'une seule nation, enfin sur Terre, on respire le même air, et on a tous les mêmes problèmes, que ce soit dans le fin fond du Bush ou que ce soit à New York. Voilà, ça a été marquant et ça a été un très gros cadeau de la Confédération, un peu un cadeau empoisonné quand même, parce qu'il fallait se débrouiller. Oui, mais
Un
enfin, je
grand
suis très...
apprentissage, un grand développement personnel
Énormément,
sur tous les plans. C'est ce qui est fascinant, c'est ce qui est fascinant dans ton livre, hein, c'est que tu arrives à faire le lien entre les petits conflits de la vie du quotidien et puis des situations comme au Rwanda.
merci.
Parce que, comme tu l'as dit, les dynamiques, c'est souvent les mêmes, en tout cas très similaires. Puis l'être humain derrière ce qui l'anime, c'est toujours le même aussi. Donc,
Oui, je dirais globalement, hein, mais bien entendu, on n'a pas assez de temps, et là on pourrait passer toute la journée, voire plusieurs journées, mais globalement, ce qui constitue l'essence d'un conflit et qui nécessite ensuite une médiation d'une troisième personne, c'est que deux personnes s'affrontent, en général sur des idées, des territoires, sur des... également sur des projets, etc. Et chacun voit midi à sa porte, hein, et n'arrive pas à envisager le point de vue de l'autre. Et dans mes différents enseignements, c'est vrai que si on arrive à comprendre, à se mettre 2 secondes à la place de l'autre, d'une part, ne pas vouloir avoir raison, Pascal, parce qu'on s'en fiche d'avoir raison. Est-ce que ça te sert à quelque chose d'avoir raison si tu me dis qu'aujourd'hui il pleut et que moi je trouve qu'il pleut pas? Tu te couches, moi je me couche, et puis je me dis, ah, mais écoute, il a vraiment tort, le petit Pascal ou le grand Pascal, et puis la petite Brigitte, eh ben, elle a raison. Non, c'est pas ça. Alors on quitte cette histoire, j'ai raison, tu as tort. Et la deuxième chose, qui est vraiment un mécanisme très important dans toute forme de compréhension et de début de médiation, c'est de pouvoir se mettre à la place de l'autre. Donc, quand je parle de ma tour de Pise, elle est, Je dis toujours, Pascal Gimperly voit la tour de Pise qui penche à gauche, et moi, on regarde la même image, je suis de l'autre côté, et je la vois pencher à droite. Et ça, il faut l'intégrer. Voilà.
Absolument, je pense là, tu touches à deux éléments vraiment principaux, fondamentaux de la médiation, qui sont le changement de perspective et puis le... Bah, je dirais ça dans la philosophie asiatique, le yin et le yang, dont tu parles dans le livre, hein, de voir qu'il n'y a pas que du noir et du blanc, il y a toujours du blanc dans le noir et vice-versa.
Bien sûr, oui.
Chacun sa réalité selon sa perspective.
Absolument.
Donc voilà, par rapport au livre encore, qui a été publié l'année passée, le 19 février 2019, 302 pages dans l'édition Dervy, et oui. On va en parler maintenant. Et merci. Peut-être avant d'aller un peu plus dans les détails, pourquoi ce livre, Brigitte?
Comme on disait, je dirais depuis 1997, pas 8, depuis mon passage au Rwanda, je me suis rendu compte que la gestion de conflits était universelle, que ce soit dans une cuisine avec un mari ou une épouse, ou que ce soit au niveau de deux nations, ou que ce soit, comme c'était le cas au Rwanda, en guillemets, entre deux, on ne peut même pas parler de deux ethnies, parce que les Rwandais sont des Rwandais, avec la même religion, la même langue, etc. Donc deux groupes, hein, on va appeler ça comme ça. Et puis, je me suis dit, mais s'il y a des petits livres pour apprendre à faire la cuisine ou apprendre à skier, il doit y avoir des livres pour apprendre à gérer les conflits. Et je trouvais qu'il y avait peu de choses sur la médiation. D'abord, c'est vrai que ça a démarré aux États-Unis, hein, comme on sait, à cause des différents palais de justice qui étaient engorgés à cause des procès. Mais chez nous, là, il n'y avait pas des masses de choses. Donc, je me suis dit, voilà, peut-être que je vais ramasser tout ce que je sais, tout ce que j'ai compris. Et puis ensuite, c'est suite à ça que j'ai fait une école de médiation, d'abord aux États-Unis, à la George Mason University, à ICAR, qui était Institute for Conflict Analysis and Research. Ensuite, à Londres, avec CEDAR, Center for Effective Dispute Resolution. Exactement. Et c'est comme ça. Et ensuite, j'ai fait une formation également en PNL que je trouvais importante. Alors maintenant, c'est la tarte à la crème, la PNL, mais tout ce qui est lié à ton fonctionnement de croyance, qu'est-ce qui fait que tu crois à quelque chose et qu'est-ce qui fait que tu penses que ce quelque chose, si tu y crois, ça arrive ou pas. Et c'est important en médiation de connaître le champ de croyance de l'autre. Ça fait partie aussi des médiations interculturelles, interconfessionnelles, etc. Donc, j'ai un petit peu brossé beaucoup de choses. Et puis, j'ai aussi travaillé avec Galton sur le peace building et sur le fait qu'il est important d'avoir une espèce de transformation, alors que ça c'est encore en discussion, hein, mais je ne dis pas que c'est quelque chose, j'ai un peu mis à plat tout ce que je savais en disant voilà, moi je vous offre un petit peu une assiette, des plats chinois, puis vous vous servez, puis vous prenez ce qui vous convient. C'était un peu ça mon idée, avec de la théorie, donc vécu, de la pratique, des exercices, et puis également une partie peut-être un peu philosophique, parce que ce qui se passe en médiation, c'est juste quand même plus que, comme entre nous maintenant, c'est plus que simplement un interview où on échange des choses personnelles, de l'énergie, il y a la conscience qui parle, il y a le langage non verbal, il y a plein de choses qui passent. Et essayer de faire comprendre que dans une médiation, ce qui passe aussi, c'est ce qu'on voit pas, et ce qui passe aussi, c'est ce que l'autre ne dit pas. Et c'était aussi de travailler sur mon intuition et sur ma manière de fonctionner. Voilà. Pour le livre.
Comme on dit, les non-dits disent plus que ce qu'on dit.
Exactement, Pascal. Et j'ai beaucoup d'admiration pour toi et ta manière de faire de la médiation, parce que tu as, pour en avoir fait avec toi, tu as cette sagesse et ce calme qui font que les autres qui s'excitent autour, ça dure 2 minutes, puis ça descend. Moi, j'ai toujours admiré ça chez toi. C'est une faculté formidable. Moi, j'en ai d'autres. Je veux dire, je ne peux pas être Pascal et tu ne peux pas être Brigitte, mais ça, j'ai aimé chez toi. Tu amènes un calme, ce qui fait que les autres, comme des toupies, ça descend, puis Pascal Gimperly dit bon ben voilà, alors on va pouvoir parler maintenant, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et ça c'est génial.
Je vais te présenter. Donc voilà, tu as parlé un petit peu de ce qui t'a amené à la médiation. J'ai aussi vu ton livre que tu avais apparemment une belle rencontre avec Marshall Rosenberg. Donc Rosenberg qui est le fondateur de la communication non violente, qui malheureusement
Oui.
n'est plus parmi nous.
Oui.
Tu veux nous parler un peu de cette rencontre, le
Très, très
contexte,
volontiers.
l'anecdote?
Oui, alors j'ai beaucoup de chance parce que je l'ai rencontré tardivement, hein, j'avais déjà 50 ans, et j'ai fait ce stage en fait, avec lui, le premier stage avec lui aux États-Unis, puis ensuite j'ai poursuivi en Europe, et puis au moment de l'accréditation, je lui ai demandé si je pouvais utiliser son nom communication non violente, mais que personnellement, quand on voit un peu mon parcours et ma biographie, je ne peux pas appartenir à un groupe. Je ne veux pas représenter. Enfin, voilà, c'était pas mon histoire. Donc, il m'a dit, oui, vous pouvez parler de communication non violente. Vous citez communication non violente.org, Marshall Rosenberg, une fois dans la conversation. Il me dit, ça me suffit. Et donc, du coup, j'ai fait une espèce oui, de CNV un peu à la Brigitte, je l'ai beaucoup utilisé, mais j'ai travaillé quand même dans les médiations sur trois axes que lui avait développés, il est extrêmement important de se connecter à ses sentiments, ce qu'on ressent. Et ça, c'est très compliqué. Alors pour des parties au conflit et pour soi, c'est très important aussi une fois qu'on est connecté à nos sentiments de connaître nos besoins, hein, parce qu'il y a toute une théorie qui explique que les sentiments te relient à tes besoins et te font comprendre quels besoins tu as. Et si je bâille, c'est pas forcément que j'ai besoin de dormir, mais peut-être que je m'ennuie. Donc ça vaut la peine de demander c'est quoi ton besoin, Brigitte? Et je pourrais peut-être par exemple dire bah, écoute, Pascal, tu j'aimerais un break. Enfin, voilà, des choses comme ça. Et la troisième chose qui me paraissait très importante et qui n'est pas dans notre civilisation judéo-chrétienne, et lui, qui était de confession israélite et qui avait travaillé comme psychiatre à l'époque, il avait observé ça aussi. Nous avons énormément de peine, pour des raisons sans doute religieuses, au départ, de faire des demandes. Et c'est comme si on demandait à l'autre de deviner. Et c'est très souvent dans les couples comme ça que ça se passe. La dame, elle aimerait pour son anniversaire un parfum Chanel, mais elle n'en parle pas à son mari. Et le jour de l'anniversaire, il vient avec un pot de
Par
fleurs.
là.
Et oui, puis la dame dit, bah, c'est possible, tu n'arrives pas à deviner mes besoins. Enfin, je ne comprends pas, ça fait 20 ans qu'on est mariés, tu ne sais toujours pas que je veux du Chanel numéro 5. Et monsieur tout con, qui adore sa femme, dit, mais écoute, tu ne me l'as pas demandé. Donc voilà, je pense que c'est la chose que j'ai le plus appris. On peut faire des demandes extrêmement douces, on peut faire des demandes fermes et puis accepter que ce soit un non. Si je te demande d'aller au cinéma avec moi demain, Pascal, tu peux me dire, écoute Brigitte, je suis désolée, c'est non. Et puis si je dis, ah bon, mais est-ce qu'on peut y aller un autre jour? Tu me dis, écoute, on en reparle en septembre parce que là, je pars en vacances. Donc là aussi, ne pas faire des hypothèses, accepter le non, demander, vérifier, mais surtout faire des demandes, parce que l'autre ne peut pas deviner ce qu'il y a dans ton cerveau. Et ça, j'ai trouvé que c'était, de la part de Rosenberg, je trouvais extraordinaire. Je trouvais que c'était révolutionnaire. Voilà pour Marshall.
Peut-être explicite, et puis pour venir au secours de toutes ces femmes qui désirent Chanel numéro 5, moi ce que j'ai compris, c'est aussi, là, disons, on veut aussi que le partenaire soit attentif et comprenne ce qu'on veut, et qu'il y a aussi un peu de cet aspect-là, mais on ne va pas trop dévier maintenant du sujet.
Oui, mais il y a aussi un bon timing. Je ne peux pas, au moment où tu es en train de téléphoner à un client, te dire, chérie, Chanel numéro 5. Je veux dire, il y a un bon timing, un bon. Normalement, si on ne fait pas de demande, l'autre ne peut pas deviner ce qu'il y a dans ta tête. Et ça, je ne sais pas pourquoi notre. Oui, je pense que c'est judéo-chrétien. On n'ose pas demander, et puis on se dit, mais tu finiras bien par comprendre, Pascal, que c'est du Chanel que je veux. Et puis c'est catastrophique. Enfin, c'est. Voilà. Bref, c'était un exemple de. Oui, il m'a beaucoup apporté. Donc, ce n'est pas le seul. Moi, j'ai aussi beaucoup travaillé avec Tony Robbins en PNL et j'ai eu de la chance parce que j'ai beaucoup investi au fond sur moi. Je me dis, ben, ça coûte de l'argent hein, d'investir sur soi. C'est sûr que ce serait mieux d'acheter une maison, je ne sais pas moi, à Avignon ou à Saint-Raphaël. Mais ce n'était pas ça. Je me suis dit, j'investis sur moi et je dépense ces sommes astronomiques. allé à San Diego pour rencontrer Tony Robbins, pour comprendre que, comme les coachs, comprendre que ce que tu crains arrive parce que tu y penses tellement, et puis également ce que tu penses, c'est ça qui sert de moteur dans ta journée. Si tu te lèves le matin en disant ça va être une journée formidable, il y a 99% de chances que ta journée soit formidable. Si tu te lèves le matin en disant merde, encore une de ces journées de pluie, il va rien se passer, guess what? Il n'y a rien qui se passe. Donc, il y a un lien très fort que les sportifs utilisent dans le coaching, mais qu'on peut aussi utiliser dans la médiation, entre ce que je pense qui peut arriver, notamment la paix entre deux personnes, ou trouver un terrain d'entente, et ce qui arrive effectivement.
Absolument, absolument. Et puis, tu as marché sur la braise, hein, j'ai lu dans ton livre.
Oui, alors c'est un exercice. Waouh!
C'est comment on sent quand même, ça chauffe quand même un peu ou pas du tout?
Oui, non. On était plus de 1000 et comme tu connais un petit peu les méthodes américaines, tu dois signer évidemment une décharge et il y a des médecins au début des 8 mètres et à la fin des 8 mètres. Et c'est vrai que, alors il y a quand même quelque chose qui est incroyable, alors que tu as médité, hein, je fais pas de théorie, je livre mon expérience. Si tu doutes un instant et que tu te dis que ça va te brûler la plante des pieds, ça brûle la plante des pieds. Et si tu ne doutes pas, alors c'est vrai qu'il y a des tambours, on est dans une forme de transe, on est préparé, et que tu te dis, mince, il y a 450 personnes qui ont traversé avant moi, puis ça avait l'air de marcher, il n'y a aucune raison, ma petite Brigitte, que ça ne marche pas. Donc tu te dis, je fais mes 8 mètres, puis on verra après. Mais c'est vrai qu'il y a des dames avant ou des hommes après moi, ils sont brûlés et ils ont dit à la fin, chaque fois qu'ils ont pensé qu'ils allaient être brûlés, ils étaient brûlés. Alors, Pascal, tu imagines ce que ça signifie dans la vie, que lorsque tu penses que quelque chose va arriver, que ça arrive vraiment, et que tu peux te dire que si tu t'assieds à une médiation et que tu es déterminé à trouver une solution satisfaisante pour toi et pour l'autre, à ce moment-là, ça marche aussi. Il faut chercher, mais on trouve.
Oui, ça serait en PNL, on parle de croyances limitantes, donc ça serait un peu le contraire, c'est les croyances permettantes, si on veut.
Exactement. Tout ouvrir, puis de se dire, mais ça marche comme ça, hein, les coachs sportifs, enfin, que ce soit Teddy Riner, qui est donc le judoka, qui en ce moment est en train de se battre à Tokyo, où il n'y a personne, aux Jeux Olympiques, que ce soit Teddy Riner ou quelqu'un d'autre, il a un coach qui lui dit, mais tout le temps, tu sais quoi, d'une part, t'es le meilleur, et puis il n'y a aucune raison que tu ne gagnes pas. Donc là, on va déjà écarter tous les doutes. Donc là, c'est bon, tu y vas, tu te focuses, et c'est bon. Et c'est intéressant que ce soit un petit peu... c'était... il avait après « To Unleash the Power Within ». C'était le premier livre que j'avais lu de Tony Robbins. Et puis, il a fait évidemment plein d'émules. C'était aussi une des formations. Alors, c'est un hasard que je sois tombée sur ces gens-là. J'ai fait un mix aussi avec ce qu'on avait appris au CICR, bien entendu, sur des questions de négociation, de droit international humanitaire, et aussi ma perception de la vie et des gens. Et je pense... alors. Ça n'engage que moi. Je pense qu'il ne faut pas faire de médiation si on n'aime pas les gens. Je dis pas, c'est pas peace and love en 68, hein, c'est pas ça. Mais il faut avoir un certain amour de l'humanité, un amour des gens, et puis un amour aussi pour les défauts des gens. Parce que s'ils sont en pétard et en conflit, c'est qu'ils ont des gros défauts, guess what, qui sont en résonance avec les miens. Donc il y a une espèce de communauté de défauts et de problèmes, on est tous dans la panade et tout le monde à un moment donné doit ramer, etc. Donc si tu y vas avec un cœur, je dirais ouvert, plein de, pas d'espèce de compréhension baveuse et d'empathie, etc. Je t'aime, Pascal, tu vas y arriver. C'est de nouveau pas un truc judéo-chrétien où vous devez vous entendre absolument. Tu vois, tu dis à A et B. Au contraire, tu dis à A et B, écoutez, moi, je vais vous dire, vous n'êtes absolument pas obligé d'aller au cinéma tous les jours, vous n'êtes même pas obligé de vous revoir, mais le conflit qui est entre vous, ça vous bouffe votre énergie des deux côtés. Alors, on va l'enlever ensemble, et puis après, vous pourrez avancer, mais au moins, il n'y aura pas ça entre vous deux. Et je pense que c'est ça, une médiation réussie. C'est pas d'épouser l'autre, ni de trouver génial ce qu'il pense, mais de trouver une solution, parce qu'on a compris comment il fonctionnait, puis au milieu, on se dit, mais mince, effectivement, là, on pourrait faire comme ça, et lui, il serait content, et moi aussi.
Est-ce que pour être une bonne médiatrice, un bon médiateur, il faut être un peu rousseauiste?
Qu'est-ce que tu entends par là?
D'être convaincu que l'homme n'est bon. Et puis, s'il est corrompu,
Non, non, c'est pas ce que je dirais, si je peux me permettre, hein. Non, alors je dirais l'être humain, il est malheureusement et bon et mauvais. Il a une part d'ombre, il a 50%, c'est comme une pomme. Il y a la partie visible de la pomme, puis il y a la partie derrière qui est la partie d'ombre. Mais ce qui est intéressant, une bonne médiation, c'est que si tu as identifié chez l'autre sa partie d'ombre et sa partie négative, qu'elle résonne en toi et que tu te dis, mince, alors moi aussi, oh là là, les histoires que j'ai pu faire pour un Doberman, tu ne m'as même pas imaginé. Voilà. Donc à ce moment-là, ça prend plus d'humanité. Puis tu dis, OK, alors on va regarder, on va travailler sur les parts d'ombre de l'autre, les parties claires. Et surtout, on va pas se raconter des histoires. On va essayer de faire des choses très concrètes, quoi. Parfois avec de l'argent, parfois avec des compensations, parfois avec des idées simplement créatives. Comme moi, par exemple, des médiations que j'ai faites pour des gens dans une famille qui devaient absolument partager une résidence secondaire au bord du lac. Et puis là, malheureusement, ils étaient une quinzaine. Alors, c'était toute une histoire. Mais à partir du moment où on était quatre ou cinq représentants, on a pu construire des trucs créatifs en disant, OK, alors moi, je m'occupe de tout ce qui est jardin et on fait une année sur deux et l'autre s'occupera de la clôture. Voilà. Puis on commence à écrire pour que chacun ait l'impression qu'il participe et que ça lui appartient. Et c'est comme ça qu'on a réussi une espèce de charte d'utilisation de cette maison au bord du lac qui était valable 2, 3 ans. Puis on a dit, ben, si entre-temps ça ne marche pas, ben, vous revenez vers la médiation. On regarde comment est-ce qu'on peut faire des amendements. Rien n'est définitif dans la vie. Tout est une question de discussion et d'accord des parties au conflit.
Quelle est ta plus belle expérience de médiation?
Ah, oui, bah, ça a été en Afrique du Sud avec des Somali warlords. Et c'était des hommes, alors du bush, hein, et des hommes masculins, extrêmement croyants, musulmans, mais un islam est trouvé, enfin, je veux dire, avec la rudesse du désert. Il y a des, dans le Somaliland, c'est vraiment, voilà. Et puis, c'était entre différentes, groupes. Et puis, à un moment donné, on était deux médiateurs, hein. Il y avait un monsieur d'Afrique du Sud et moi. Et puis, on essayait de débroussailler, de comprendre que ça ne servait à rien de détruire le territoire de l'autre, mais que c'était une meilleure idée de la partager, etc. Et à un moment donné, il y a un des Somalilords qui commence à raconter l'histoire de sa vie. Comment sa maman l'avait finalement mis devant le perron d'un groupe protestant, comment il avait réussi à faire des études, comment il était revenu après. Et puis ensuite, il raconte ce combat quand même, qu'est-ce que ça veut dire d'être Somali, etc. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu les larmes aux yeux. Pascal, parce que j'étais très très touchée par ce monsieur, par son honnêteté, par sa recherche au fond il recherchait au fond la paix, enfin je sais pas comment dire. Et le fait que je commence à pleurer, enfin, j'en ai encore les larmes aux yeux maintenant. Il avait des grands yeux ouverts, que cette dame blanche qui venait d'Europe, blonde, pleure sur son histoire, qui a eu réellement cette compréhension de sa situation. C'était juste ça. J'ai pas dit qu'il était génial, mais j'ai juste compris ce qu'il racontait. Et il m'a dit à ce moment-là, je vous remercie. Moi, ça va me permettre de pouvoir parler à l'autre. Et ben voilà, alors je raconte ça, je sais pas si je le raconte dans le livre ou pas, mais je raconte pas ça pour dire Pascal, il faut pleurer quand deux nanas font une médiation parce qu'elles se disputent, c'est pas ça. Mais oui, être authentique et puis comprendre la souffrance de l'autre qui est en conflit, et A et B. Et d'où il vient et qu'est-ce qui fait barrage à pouvoir entrer en dialogue avec l'autre. Il y a toujours des obstacles comme ça au milieu et faire barrage. Il y avait cette histoire comme quoi il avait promis à sa maman de devenir quelqu'un et de régner sur tout, enfin, etc., etc. Mais j'oublierai pas le visage de ce monsieur et je pense que lui non plus. Voilà.
Ouais, je pense que c'est très important, très touchant ce que tu dis, parce que neutralité aux médiations, ça ne veut pas dire distance, hein.
Non, pas du tout. C'est vraiment être concerné par l'autre, mais ne pas prendre sur ses épaules le problème de l'autre. C'est vraiment, c'est très différent. Et ça, j'ai appris aussi avec Marshall Rosenberg. C'est important de pouvoir comprendre la position de l'autre. Ça ne veut pas dire être d'accord. Ça veut juste dire, je vois où tu es, Pascal. Je vois d'où tu parles et je vois vraiment ce qui t'anime et je me rends compte de ce que tu aimerais. Et on va essayer de trouver un chemin avec l'autre pour que tu y arrives, parce que moi, le chemin, je ne le connais pas. Alors, comme médiatrice, je n'ai aucune idée comment on doit faire les Somalis, mais encore moins un couple et encore moins 5 personnes qui partagent une maison. Je ne sais pas. Donc, je passe les plats et je suis convaincue qu'il y a un chemin qu'on peut trouver.
Merci Brigitte pour ce partage. Donc, ton livre, il partage beaucoup de sagesse et de savoir, et entre autres sur les principes de base aussi de la médiation et pour les personnes qui veulent s'initier à cet art. Pour moi, au-delà de cette partie-là, il y a 4 éléments principaux du livre qui ont particulièrement retenu mon attention. C'est le premier point, c'est le constat, je résume en simplifiant, c'est que le conflit extérieur est un miroir de notre conflit intérieur.
Ah, merci.
À un certain moment, du radar intérieur. Comment l'enclencher? Comment le lire, ce radar?
Oui, c'est une belle question. Et Pascal, c'est affreux d'avoir quelqu'un qui lit aussi bien que toi. Parce que je lui pose la question pile poil, qui est très compliquée à expliquer, parce que c'est dans l'ordre du ressenti. Alors, voilà, si je devais dire comme ça... Premièrement, je suis convaincue que tu ne peux pas entrer en médiation avec deux personnes, comme disait Fiutak, entrer dans l'arène, hein, encore que moi l'idée du cirque ça ne m'a pas tellement plu, mais enfin c'est quand même, tu rentres dans une ère fermée où tu es le tiers qui ne sait pas mais qui passe les plats. Et à mon avis, tu ne peux pas rentrer en médiation, je dis bien en médiation comme on rentre dans les ordres, si avec toi-même, tu n'as pas fait la paix. Et faire la paix avec soi-même, ça veut dire effectivement s'engueuler avec sa femme le matin parce que vraiment, il y a toujours dans la salle de bain plein d'eau quand tu veux prendre ta douche, c'est pas possible. C'est partir le matin en se disant « merde, flûte, j'essaye d'enclencher ma voiture et ma clé qui casse », etc. Il y a mille et une choses de la vie qui font que ne pas faire un tout petit peu de méditation ou de calm down, ou de centrage, appelle ça comme tu veux, ou de la natation, ou du yoga, ou de te mettre à embrasser un arbre, c'est égal. Mais si tu veux vraiment être apporteur ou porteur d'eau, ou de dialogue, il faut que tu sois en paix avec toi-même. Autrement, tu amènes un problème supplémentaire. C'est-à-dire, parce que la colère, c'est une énergie. Tu amènes ta colère du matin, ta frustration parce que la salle de bain, la frustration parce que la clé, et tu t'en rends pas compte. Et cette frustration qui est intérieure, dès qu'à l'extérieur, il y a quelqu'un qui, effectivement, elle est partie au conflit, sont très frustrée, à ce moment-là, ça rentre en collusion. Et ça fait boum, parce que tu es un problème supplémentaire et tu allumes, parce qu'à l'intérieur, tu as un problème avec ta salle de bain, tu allumes chez l'autre l'endroit où lui, il a un problème aussi, et c'est cette longueur d'onde de la frustration et de la colère qui se rencontrent. Et non pas, je suis centrée, ok, la salle de bain, j'en parle ce soir avec ma femme, la clé, je vais la refaire, et puis l'histoire avec mon fils là, qui met du chocolat partout, ça aussi, je m'en occuperai tout à l'heure. Actuellement, je suis là. J'essaye d'aller à l'intérieur de moi et d'être en paix avec moi-même et trouver que Brigitte, c'est OK. Deux, Brigitte ne fait pas des miracles. Je ne veux pas que vous réussissiez à vous entendre, A et B. On fait une tentative de dialogue pour voir si au milieu, on peut trouver quelque chose. Peut-être qu'on ne trouve rien, mais au moins, on aura entendu la position de l'autre, de A et B. Donc, je ne rentre pas en forçant, en disant, écoutez, alors je vous en supplie, là, dans 2-3 heures ou dans 2-3 jours, il faut que vous vous entendiez, hein, parce qu'autrement, moi, je suis personne. Pas du tout. Je lâche le résultat. Ça, c'est déjà compliqué. Je suis alignée avec moi-même, j'écoute mes voix intérieures et si j'ai de la place dedans, parce que la salle de bain, la clé, etc., j'ai suspendu pour après, mais là, actuellement, je suis à 100% avec toi et avec A et B. Si à ce moment-là, tu arrives à capter qu'est-ce qui se passe chez l'autre, quels sont ses désirs, quelles sont les choses qu'il ne dit pas, qu'est-ce qu'il voudrait tellement. Tu essayes de faire qu'ils entendent ce que A et B ont dit, parce que parfois de pouvoir répéter ce que A a dit simplement pour que B entende, c'est assez extraordinaire. Donc voilà, tu rentres dans un processus de douceur et d'entente et d'être complètement disponible pour l'autre et non pas encombré avec tes propres problèmes intérieurs. C'était ça un petit peu que j'essayais de dire. Et pour ça, il y a 1000 techniques asiatiques, notamment de la méditation. Et là, il y a 1000 aussi techniques de méditation. Il y a des méditations bouddhistes, il y a des méditations transcendantales. Il y a en ce moment énormément de mouvements sur la méditation. Je ne trouve plus le nom. D'être centré. C'est égal. Chacun là, et j'ai plusieurs exemples à la fin du livre où j'essaie de donner aussi des sites internet, mais il suffit de regarder un petit peu puis de trouver sa propre méthode. Mais j'ai trop, vraiment, et je ne dis pas que les autres ne sont pas bien et moi je suis bien, c'est pas ça. Mais j'ai trop souvent assisté, senti et vu des gens être tellement en pétard avec eux-mêmes qu'il n'est pas possible de faire une médiation. Parce que, imagine-toi Pascal, il faut arrêter d'être les autres sentent. Si moi j'arrive en pétard en disant « Bonjour, ça va ?» Alors moi ça ne va pas du tout à cause de la salle de bain, etc. C'est sûr que l'autre sent. Il n'y a même pas besoin de dire des mots, puis tout le monde se dit oh, « Il n'a pas l'air bien ce médiateur. » Il faut arrêter de penser que les autres ne voient pas qui on est, et que l'essentiel de la communication, de 80%, ce n'est pas verbal, ce n'est pas verbal.
J'ai donc
répondu un peu à ta question.
Alors, en fait, j'allais dire que chaque conflit, hein, dans cette logique-là, chaque conflit est une occasion pour un développement personnel. C'est comme un cadeau. Hein.
Et je ne crois pas au hasard. J'arrêtais de croire au hasard. Je pense qu'il y a un fil comme ça dans la vie. Je ne dis pas que tout est écrit, ce n'est pas ça. Mais il y a un fil avec des opportunités et puis tu ne tombes pas. Souvent, je suis tombée sur des médiations où ça résolvait aussi un problème chez moi. Puis je me dis, tiens, ah, ça, c'est une réponse. Ah, pas mal, d'accord. Donc, oui, c'est une histoire à trois. Je pense que c'est quand même, comme dit Galto, c'est quand même 3 heures de 3 semaines, on n'est plus au même endroit qu'au début. Ça, je suis convaincue de ça. Voilà.
J'ai une citation de ton livre pour résumer ce point. Je pense que justement, il résume très bien. C'est « L'être humain a une grande tendance à projeter sur les autres ce qu'il ressent pour lui-même. Ainsi, fréquemment, au lieu de regarder en nous, nous nous tournons immédiatement vers l'extérieur afin d'éviter ces endroits douloureux en nous, projetant la faute du malaise et de la gêne sur l'autre. » Je pense que ça résume très, très bien cette discussion.
Oui. Mais c'est fascinant. Pascal, c'est fascinant. Lorsque on se surprend à se dire, j'ai fait hein, des stages là-dessus, comme je t'ai dit, des stages de formation en médiation pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le médiateur quand la partie, par exemple, B, dit des choses complètement cucu. Puis tu te dis, mais c'est ridicule ce machin-là, etc. Et tu peux être sûr à 102%. Que si tu trouves cucu et tu trouves ridicule et que tu viens 2 secondes chez toi, c'est que ça révèle chez toi des choses que tu es en train de travailler, que tu n'aimes pas beaucoup. Hein. Ça, c'est des parties de toi que tu mets sous le tapis en disant non, moi, la grande Brigitte, en tout cas, ça ne me concerne pas. Et puis, c'est assez extraordinaire, on sert de miroir les uns aux autres. Et alors, du coup, ça devient une opportunité. Tu dis, ah, la partie B, là, je la trouve un peu cucu. D'accord, hein, qu'est-ce qui est cucu, là? Et puis, tac, tu me dis, ok, ça, c'est, je vois très bien, etc. Et je vois très bien comment, moi, je n'arrive pas à accepter ça. Et par exemple, dans une médiation, on peut tout de suite, je dis n'importe quoi, hein, mais il faut être le plus authentique possible, puis dire à l'autre, par exemple, à la partie B, oui, bah dis donc, oui, je vois bien ce que vous ressentez, là, parce que, alors ça, c'est un sentiment connu. Tout à fait. Alors, ça vous énerve hein, quand l'autre vous en... etc., etc. Eh bien, c'est assez normal.
Donc, voilà, le conflit est un miroir.
Un truc comme ça. Oui.
Donc, le conflit...
C'est une fois qu'on a compris ça... Pardon.
on a beaucoup plus à dire. Le conflit extérieur, c'est un miroir du conflit intérieur.
Oui, c'est ça, Pascal, je pense.
Ça permet justement la découverte de soi, si on arrive à l'écouter, hein, justement enclencher et lire ce radar intérieur.
Alors, je ne dis pas que j'y arrive toujours, hein. Je veux dire, alors surtout pas, parce que je ne serais pas là. Je pense que je serais un petit nuage, comme dit le Dalai Lama, hein, si j'étais carrément, mais ce qui n'est pas le cas, c'est que j'accepte mon humanité, j'accepte mes erreurs, mes défauts, que je rencontre encore après tellement d'années de recherche, etc., mais je les reconnais, et en les acceptant, je me dis, tiens, là, c'est un petit truc sur lequel je pourrais quand même un peu travailler. Voilà, dans ce sens-là. Et c'est jamais fini, Pascal, c'est jamais fini. Je pense que jusqu'au dernier souffle, parce que c'est notre condition humaine, et c'est une folie de penser qu'on est parfait. Je pense qu'on est 50% bon et 50% pas bon. Voilà. Et qu'on vient avec ça. Et qu'on se démerde avec ça. Chacun a une arborescence différente. Mais en l'acceptant chez moi, c'est sûr que l'autre se sent accepté aussi.
Un autre point, le troisième point qui m'a beaucoup parlé dans ton livre, c'est même le sous-titre, je crois, d'un chapitre, c'est « La paix, une utopie accessible ». Et moi, ça me parle beaucoup parce que, justement, dans l'idée que la paix universelle, la paix mondiale, si on veut, elle existe, elle peut exister, elle doit exister, mais en quelque sorte, ça reste une utopie. Mais il ne faut pas cesser de pencher à y arriver, il ne faut pas cesser les efforts.
Exactement. Oui.
Et tu dis la paix mondiale dépend.
Comment dire en allemand, ouais. Pardon, du coup.
Comment dire en allemand, tu dis
Streben. Il faut continuer à être aspiré vers ça et à poursuivre le chemin. Et il faut persévérer. Dû à notre condition humaine, c'est une valeur que on n'a pas atteint la paix, hein, parce qu'on est au sommet de la montagne. C'est des moments transitoires. Alors il y a des moments extraordinaires dans la vie où on est en paix, où on est heureux, où ça va bien. Et puis comme la vie est comme ça, eh ben tout de suite ça rebascule. Donc on doit, je dirais, c'est un peu comme une machine à laver la lessive. Ça revient, il faut nettoyer, il faut repasser. C'est évident, et je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup de sages, de philosophes, de religions, même des athées, enfin, on dit que vraiment, si on veut s'occuper de paix et s'occuper de projets de paix, la meilleure chose, c'est de commencer d'abord par soi-même et de se rendre compte à quel point on n'est pas en paix avec soi-même. On n'est pas en paix avec n'importe quoi, tante Janine, oncle Simon, etc., etc. Et que, c'est très spécial à dire, mais apporter la paix dans le monde, c'est d'abord commencer par être une entité le plus en paix avec soi-même possible.
Est-ce qu'on dirait alors si chacun et chacune fait ça, c'est suffisant parce que dans ce cas-là, on aura la paix dans le monde ou... Ou est-ce qu'une fois...
Oui, Pascal, non, le problème, c'est que ça, c'est comme on est tout le temps en mouvement, comme le monde, comme le monde. Et oui, alors, je pense qu'il pourrait y avoir un instant T où tout le monde est en paix avec soi et ça dure quelques secondes. Et là, c'est le nirvana. Puis ensuite, ça m'a toujours fait rire. Je crois que c'est, je ne sais plus quel psychiatre avait dit ça un jour, c'était dans l'école freudienne. Il avait dit tu fais 10 ans de psychanalyse, super. Tu te dis ah, génial, c'est bien, j'ai tout compris, papa, maman, machin, etc. Les petits frères, les petites soeurs, etc. Et puis au bout de 10 ans, tu passes de nouveau une semaine en vacances avec tes parents. Et puis là, tu te rends compte que ah non, flûte, ça recommence. Donc c'est jamais, mais c'est chouette parce que c'est une quête incessante. Et alors t'as peut-être fait un tout petit progrès, peut-être que tu vois ton papa un peu différemment ou ta maman différemment, etc. Mais c'est une illusion de vouloir arrêter. Il y a tous les philosophes le disent, mais tous les bouddhistes, même les chrétiens le disent. Il y a une seule chose de constante sur Terre, c'est le changement. Donc, même en médiation, on aura trouvé une solution. Ça ne veut pas dire que dans 3 ans, ils ne reviennent pas en disant, écoutez, la maison, c'est OK. Mais là, maintenant, on a un problème de voiture. Voilà. Donc, and it's all right, parce que c'est notre condition. Et je trouve que de vouloir lutter là contre en imaginant une paix comme ça, tout à fait religieuse, en disant ça y est, Pascal, j'ai atteint le nirvana, plus rien ne peut me toucher. Alors, moi, j'aimerais qu'on m'envoie une carte postale, hein, si ça marche plus que 2 semaines.
Juste pour le dire. Timbre risque d'être cher. Hein.
Oui.
Bien, et puis tu fais aussi le lien avec l'écologie, tu dis que l'environnement ou faire la paix avec notre terre, donc ça, c'est ça qui me parle aussi beaucoup dans cette partie du livre, c'est cette pensée complexe et holistique, hein, l'interdépendance de toute chose.
Oui. Ah ben, si j'avais 30 ans de moins ou 40 ans de moins, c'est en tout cas la direction. On ne peut pas être sur tous les fronts, mais c'est la direction que j'aurais empruntée et je vois avec satisfaction qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes, il y a des ingénieurs en économie, de l'environnement, il y a pas seulement l'histoire des poubelles et du tri. Je pense qu'il y a une réelle réflexion qui se met en place. Alors, bien sûr qu'il y a des forces contraires, mais c'est des forces humaines, c'est typique. Bien sûr qu'on aura encore, pour citer personne, des gens qui vont faire du plastique jusqu'en 3000. Voilà. Mais notre boulot, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire avec moins de plastique. Voilà. Donc, oui, l'environnement est préoccupant. Alors, surtout, alors, quelles que soient les interprétations du Covid.
Ouais. Il y a bien sûr tout ce qui est en lien avec l'écologie au niveau, je vais dire, pratique, on va dire peut-être politique, tu vois, la sécheresse qui amène des personnes à fuir et puis qui amène des guerres par rapport aux espaces disponibles et tout ça. Mais je crois que c'est beaucoup aussi dans l'attitude, dans la vision du monde, c'est que justement, comme tu le dis, hein, dans le livre, c'est que tout est lié. Il y a une sorte de, je ne sais pas si on peut dire, d'unicité de tout être et de toute chose dans le monde. Hein,
je pense, oui.
Si quelqu'un d'autre va mal, en quelque sorte, on va tous mal à un certain bout.
Oui. Et c'est bien ça qui est en résonance, malheureusement. C'est sûr que. Oui.
Ça amène de l'énergie négative. Tu sais, moi, j'avais dans mes études, j'avais fait un peu de physique à un certain moment.
Oui.
Et on a appris, ça m'a beaucoup fasciné, que tous les corps s'attirent.
Oui.
Hein, dans les planètes, c'est très visible. Hein, les planètes qui tournent autour des autres à cause de cette attraction. Parce que c'est très grand, c'est des masses énormes. Donc là, c'est vraiment visible, c'est un effet, un impact réel. Mais même, en fait, je ne sais pas, deux stylos, puisque c'est deux corps, ils s'attirent, mais c'est trop faible, ce n'est pas visible, tu vois, mais il y a une force d'attraction.
Oui.
Et je trouve ça très joli, ça vient de la physique.
Mais
tout corps s'attire, tout humain s'attire, du moins physiquement. Hein.
Oui. Non, et c'est important ce que tu dis, et c'est réellement… C'est pas en restant tout seul dans la forêt qu'on n'a pas de conflit, hein. Je veux dire, c'est pas en s'enfermant. Non, parce qu'il y en a qui pensent qu'effectivement, moins ils fréquenteront les autres, mieux ils iront. Eh ben, c'est tout le contraire. Parce que je pense qu'on grandit que à travers les autres et que à travers les conflits. Alors, je sais pas, on en a pas encore parlé, mais le conflit est quelque chose de positif parce que ça te fait avancer. Et que si tu le mets sous le tapis, il grandit et tu n'avances pas. Ouais. Donc oui, c'est très important. Je pense que c'est important qu'on se frotte les uns aux autres, comme tu dis, là, comme deux planètes, et que très souvent, ça donne des étincelles, hein, c'est sûr. Mais c'est capital. Moi, je ressens ça comme quelque chose de capital.
C'est une occasion de développement. Hein. Chaque conflit est une occasion de développement.
Oui. Oui, puis de compréhension.
Oui.
Dire, mince, je capte. Ah, je vois. Alors là, c'était vraiment…
C'est vraiment ça, cette partie-là, ton livre, que j'aime beaucoup. Moi, c'est vraiment une vision nouvelle ou en tout cas plus compréhensible de ce que j'ai pu voir et lire jusque-là. C'est vraiment cette connexion de conflits internes et externes.
Oui. Ben, je rougis. Mais je suis contente parce que, voilà, oui, c'est pas… ce qui est intéressant aussi dans la vie, c'est quand tu peux partager les choses et que quelqu'un te comprend. Je ne dis pas que j'ai raison ou tort. C'est, encore une fois, ce n'est pas ça la question. C'est juste d'avoir pu partager, et chez moi, ça part d'expérience vécue. J'ai absolument, et c'est pour ça que ça marche aussi bien dans mes études de médiation, je suis chaque fois partie d'une histoire personnelle en disant, mais là, alors, j'ai un clash, j'imagine même pas. Et dans les grandes boîtes comme le CICR, il y a beaucoup de clash dedans. On s'occupe de conflits, donc tu imagines qu'il y a des conflits dedans. Il y a des conflits dehors et puis ça brasse quoi. Donc je trouvais que c'était un endroit assez propice pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait.
Bien. Et après, le quatrième et dernier point qui m'a beaucoup parlé de ton livre, c'est les exercices. Donc, tu as beaucoup d'exercices, une sorte d'auto-évaluation, si on veut dire comme ça.
Merci, merci.
Je ne sais pas si tu voudrais en partager un avec les auditrices, les auditeurs, juste un qui est peut-être un peu simple à retenir pour que celles et ceux qui voudront l'essayer après le podcast. Et puis surtout aussi pour donner envie d'aller voir les autres hein, dans les livres, parce qu'il y en a beaucoup. Et puis c'est intéressant, c'est des exercices qu'on peut faire comme ça au bureau pour soi-même. Toi, si tu en as un.
Ben, j'ai fait un exercice typique que je fais souvent. J'ai ouvert mon bouquin à une page n'importe où et je suis tombée sur l'illustration des besoins réciproques. Je le lis rapidement et on comprendra que c'est bien de connaître ses besoins, mais c'est encore mieux d'entendre celui de l'autre et d'essayer de satisfaire les deux. C'est très compliqué, ça veut dire que ça demande une négociation. Alors, un époux dit à sa femme, chérie, je voudrais aller me promener en ville ce soir, page 197. Il y a un concert suivi d'un cortège. Sa femme lui répond, eh bien, l'idée ne me séduit pas tellement, car je suis fatiguée. Essayons de reconnaître leurs sentiments et leurs besoins respectifs. Le mari a un projet. Il est enthousiaste, plutôt excité. Il a besoin de sortir, prendre l'air, de bouger, et l'acoustique. Malheureusement, il n'a pas demandé à son épouse ce qu'elle en pensait. Il a juste laissé la phrase flotter. La communication n'a pas été véritablement établie dans cet exemple. Ce qui serait, si on utilisait l'exercice, j'aimerais sortir, aller voir un concert ce soir, Pascal, la question, ça serait toujours, qu'en penses-tu? Ou qu'aimerais-tu faire? Ou comment tu vois les choses? Enfin, il y a mille choses qui renvoient à l'ascenseur et qui disent, et toi? Donc la femme, quant à elle, n'est pas enthousiasmée par la proposition de son mari. Elle semble lasse, sentiment de fatigue, besoin de sommeil, de relaxation. Elle non plus ne fait aucune requête ou suggestion claire. Elle n'explicite pas ce qu'elle voudrait. Elle ne confirme pas qu'elle a entendu les besoins de son mari. Et une possibilité, lorsque, et toi, l'autre pourrait dire, l'épouse pourrait dire, écoute, moi j'entends que tu as vraiment envie, c'est ça qui est important, j'entends que tu as vraiment, vraiment envie de sortir, d'écouter de la musique et puis de distraction et qu'on y aille ensemble. Et je pourrais peut-être proposer, je vois que l'orchestre joue aussi demain. Moi, aujourd'hui, je suis très fatiguée. Est-ce que ça serait possible pour toi de reporter à demain? Comme ça, tu pourrais écouter ton concert, je te rejoindrai avec plaisir et je serai en pleine forme. Et là, le mari a de nouveau deux possibilités. Il dit, écoute chérie, je te laisse dormir, mais mon besoin est tellement fort, j'aimerais aller au concert tout seul. Ah, proposition A. Très bien, la femme dit je comprends parce qu'on ne possède pas l'autre et pas le programme de l'autre. Deuxième possibilité, écoute, c'est vrai. Moi, en fait, je peux regarder la télé ou lire un peu ce soir et on y va ensemble demain. Donc, il a checké ses besoins et ce qui était le plus important pour lui, c'était d'aller ensemble plutôt que d'aller tout seul et satisfaire. Et c'est sans jugement de valeur. Je raconte juste cet exemple-là, page 197, qu'on peut utiliser pour soi, pour voir que ce qui est important quand même quand on est deux et qu'on ne veut pas avoir des conflits tout le temps, c'est de savoir ce que l'autre en pense, qu'est-ce qu'il voudrait et comment tu te sens par rapport à ça, et ensuite de négocier. Et tu vois, Pascal, la négociation, il y a mille et une possibilités. Il y a tu y vas, tu l'enregistres et on le regarde au petit déjeuner. Et c'est ça la médiation. C'est quand on ouvre le champ des possibles, parce que les gens sont d'une créativité extraordinaire. Et c'est quand même les parties au conflit qui savent ce qui est le mieux pour eux. Et après, bah, très bien, on l'enregistre, ah génial, comme ça je le montrerai à notre petit-fils, etc., etc. Donc ça, c'était un exemple concret, hein, par hasard, sur lequel je suis tombée pour un exercice à faire, et on peut s'exercer au quotidien, quoi.
Merci beaucoup. Oui, il y en a plein comme ça et je trouve très utile. Et ça montre justement que
Merci.
le rapport entre les personnes est important, la compréhension des besoins. Là, ben, c'est un exemple tout simple. Je pense qu'on connaît tout ça. Et de dire de vraiment soi-même mieux comprendre mon besoin. Est-ce que c'est de passer du temps avec mon partenaire ou c'est d'aller écouter cette musique?
Et and it's all right. Le problème, et ça marche si effectivement tu es dans le non-jugement. C'est-à-dire que tu ne sous-entends pas, pauvre con, tu vas y aller tout seul. Je veux dire, si effectivement on arrive à balayer ça et à dire, c'est OK pour moi si tu vas ce soir parce que je préfère dormir. Donc là aussi, les sous-entendus, c'est important de. Je pense que l'absence de jugement, et ça aussi, c'est un gros travail sur soi. Essayer, alors, on juge tout le temps, hein, ça nous permet de vivre, mais essayer de ne pas juger la position de l'autre, mais trouver comment est-ce que je pourrais, au fond, satisfaire mon besoin et satisfaire le besoin de l'autre. C'est ça l'idée.
C'est le gagnant-gagnant, le fameux.
Gagnant-gagnant, win-win. Ben, merci beaucoup, Pascal. Ça a été passionnant parce que je suis touchée que quelqu'un ait lu mon livre pour de vrai.
Ah, je ne suis certainement pas le seul. Là, je l'ai lu à ma manière, hein. J'en ai sorti ce que je trouvais, ce qui m'a le plus
Je sais
parlé.
pas.
Et puis,
Ah ben c'est ça qui est important. C'est ça mon idée.
effectivement, effectivement. Non, en tout cas, je peux vraiment le recommander. Donc, je vais mettre le lien ici dans le descriptif du podcast
Merci.
pour les
Merci
personnes qui
beaucoup.
veulent aller voir ce livre et puis vraiment le lire en profondeur parce qu'il y a beaucoup de sagesse, beaucoup d'apprentissage là-dedans.
Merci. Et d'expérience, oui.
D'expérience surtout que tu partages. Donc, merci aux auditrices et aux auditeurs. Merci de.
Merci infiniment. Et le livre, on le trouve partout, dans toutes les librairies. C'est une maison d'édition à Paris qui livre en Suisse sans problème, en France, dans tout, voilà, dans le monde entier.
Absolument. Donc, merci de vous abonner à la chaîne. Merci de donner un pouce en haut et le cas échéant, nous écrire vos commentaires ou propositions pour d'autres invités ou d'autres thématiques. Merci à toi, Brigitte.
Merci Pascal.
À très,
Merci
très bientôt.
infiniment.
Merci.
Bye bye. Merci infiniment.
Ciao.